Ben-Hur, chapitre 3, Joseph et Marie à Bethléem. C'était la troisième heure du jour, et un grand nombre de personnes avaient déjà quitté la place située en dehors de la porte de Jaffa, à Jérusalem, qui, depuis les jours de Salomon, sert de lieu de marché. Cependant, la foule qui l'encombrait ne diminuait guère. Sans cesse, de nouveaux arrivants venaient se joindre à elle. Parmi ceux-ci se trouvait un homme et une femme montée sur un âne. L'homme se tenait debout à la tête de l'animal qu'il conduisait par la bride. Il s'appuyait sur un bâton, et son costume, semblable à celui des Juifs du commun peuple, paraissait encore presque neuf. Probablement le manteau qui encapuchonnait sa tête et la robe qui recouvrait sa personne de la naissance du cou jusqu'au talon étaient ceux qu'il mettait pour se rendre à la synagogue les jours de sabbat. À voir son visage, on lui donnait 50 ans, supposition que ne démentaient point les fils blancs entremêlés dans sa barbe noire. Il regardait autour de lui de l'air à la fois curieux et indifférent d'un étranger et d'un provincial. L'âne mangeait tout à son aise une poignée d'herbes vertes qui se trouvait en abondance sur le marché et ne paraissait pas s'occuper de la femme voilée et vêtue d'une robe de laine de couleur sombre qui se trouvait assise sur son dos. Au bout d'un moment, quelqu'un accosta l'homme en lui disant « N'es-tu pas Joseph de Nazareth ?»« On m'appelle ainsi, » répondit Joseph en se retournant lentement. « Et toi ?» « Ah, que la paix soit avec toi, Rabbi Samuel, et avec toi. » Le Rabbi s'arrêta, regarda la femme et ajouta, « Avec toi, avec ta maison et avec tous les tiens, soit la paix. » Il plaça une de ses mains sur sa poitrine et s'inclina devant la femme en prononçant ses dernières paroles. Elle écarta légèrement son voile afin de le voir et l'on put apercevoir le visage d'une jeune fille à peine sortie de l'enfance. « Il y a si peu de poussière sur tes vêtements, » reprit le rabbi, « que j'en conclus que tu as passé la nuit dans cette cité de nos pères. »« Non, » répondit Joseph, « nous n'avons pu aller plus loin que Béthanie, où nous avons passé la nuit et nous nous sommes remis en route au point du jour. »« Vous avez donc devant vous un long voyage. Vous n'allez point cependant jusqu'à Joppe, j'espère. »« Seulement à Bethléem. » L'expression du rabbi s'assombrit. « Oui, » dit-il, « je comprends. Tu es né à Bethléem, et maintenant tu t'y rends avec ta fille pour y être enregistré, ainsi que César l'ordonne. Les enfants de Jacob sont aujourd'hui comme étaient les tribus en Égypte. Seulement, ils n'ont plus ni Moïse ni Josué. » Joseph répondit sans changer de posture, « Elle n'est pas ma fille. » Le rabbi ne fit pas attention à cette interruption et continua, poursuivant son idée. « Que font les Zélotes là-bas en Galilée ?»« Je ne suis qu'un charpentier, et Nazareth est un village, » dit Joseph prudemment. « Je n'ai pas le temps de m'occuper des querelles de parti. »« Mais tu es juif, » dit le rabbi, « et de la lignée de David. Il est impossible que tu prennes plaisir à payer une taxe autre que le shekel dû à Jéhovah. » Joseph resta silencieux. « Je ne me plains pas du montant de la taxe. Un denier est une bagatelle. » L'offense, c'est l'imposition. La payer, n'est-ce pas se soumettre à la tyrannie? Dis-moi s'il est vrai que Judas prétend être le Messie que vit au milieu de ses disciples. Je leur ai entendu dire qu'il l'est, dit Joseph. À ce moment, la jeune femme retira son voile et pendant un instant, on put voir un visage d'une exquise beauté sur lequel se lisait une intense curiosité. Ta fille est agréable à la vue, s'écria le politicien. Oubliant ses préoccupations. « Elle n'est pas ma fille, » répéta Joseph, et voyant que sa curiosité était éveillée, il se hâta d'ajouter « Elle est la fille de Joachim et d'Anne de Bethléem, dont tu dois avoir entendu parler, car leur réputation était grande. » « Oui, » dit le rabbi, respectueusement, « je les connaissais bien. Ils descendaient en ligne directe de David. » « Ils sont morts à Nazareth, » continua le Nazaréen. Joachim n'était pas riche, cependant, il laissait une maison et un jardin à partager entre ses deux filles, Marianne et Marie. Celle-ci en est une, et la loi exigeait que pour conserver sa part de la propriété, elle épousa son parent le plus proche. Elle est ma femme. Tu étais son oncle. Et comme vous êtes tous les deux de Bethléem, vous allez vous faire enregistrer tous deux par les Romains. Le Dieu d'Israël est vivant, la vengeance lui appartient. » Joseph, qui ne désirait pas continuer cette conversation, ne parut pas avoir entendu. Il rassembla l'herbe que l'âne avait dispersée autour de lui, puis reprenant sa bride, il tourna à gauche et s'engagea sur la route de Bethléem. Silencieusement, tendrement, le Nazaréen veillait sur sa jeune femme, guidant sa monture le long du sentier mal tracé, intercepté çà et là par des branches d'oliviers sauvages qui descendent dans la vallée d'Hinnom. Ils avançaient lentement et, quand ils commencèrent à remonter vers la plaine de Réphaïm, le soleil dardait en plein ses rayons sur eux. Marie enleva entièrement son voile car il faisait chaud. Et Joseph, qui marchait à côté d'elle, lui racontait l'histoire des Philistins, surpris autrefois par David en cet endroit même. La tradition nous a transmis un portrait charmant de la jeune femme qui se rendait ainsi dans la cité du roi Pasteur. Elle n'avait pas plus de 15 ans. Son visage était d'un ovale gracieux, son teint plus pâle que rosé, ses traits d'une régularité parfaite, de longs cils ombrageaient ses grands yeux bleus, et ses cheveux blonds, arrangés selon la coutume des mariées juives, atteignaient le coussin sur lequel elle était assise. À tous ses charmes, ça n'ajoutait d'autre d'une nature plus indéfinissable. Surtout, une expression telle que seule une âme pure peut la communiquer au visage. Souvent, ses lèvres tremblaient. Elle levait vers le ciel ses yeux bleus, comme lui, puis elle croisait ses mains sur sa poitrine et semblait s'absorber en de muettes actions de grâce. Ou encore, elle paraissait écouter des voix mystérieuses. De temps à autre, Joseph interrompait son récit pour la regarder, et voyant son expression, il oubliait de quoi il parlait et se prenait à songer. Ils traversèrent ainsi la grande plaine et atteignirent enfin l'élévation de Mar Elias, d'où ils purent voir Bethléem, dont une vallée les séparait encore. Ils trouvèrent celle-ci tellement encombrée de gens et d'animaux que Joseph, craignant de ne plus trouver de place pour Marie dans la ville, se hâta d'avancer sans prendre le temps de saluer aucun de ceux qu'il rencontrait sur son chemin. Les caravansérails de l'Orient ne sont souvent que de simples enclos, sans toit, même sans porte, placés en des endroits où l'on trouve de l'ombre, de l'eau et qui offrent quelques garanties de sécurité. Tel devait avoir été ce où s'arrêta Jacob lorsqu'il se rendit en Padan Aram pour y chercher une femme. L'autre extrême était représenté par certains établissements situés principalement au bord des grandes routes qui conduisaient à des villes importantes comme Jérusalem ou Alexandrie, constructions princières servant de monuments à la piété des rois qui les avaient fait construire, mais le plus fréquemment c'était tout simplement la demeure d'un cheikh ou sa propriété, ou le quartier général d'où il gouvernait sa tribu qui en tenait lieu. Loger les voyageurs constituait la moindre utilité d'un caravansérail de cette espèce, qui était tout à la fois une place de marché, une factorerie, un fort. L'aménagement intérieur d'une de ces hôtelleries ne laissait pas que d'être singulier. Il ne s'y trouvait ni hôte, ni hôtesse, ni serviteur, ni cuisinier, ni cuisine. Seul un intendant qui se tenait à la porte représentait le propriétaire et faisait respecter l'ordre. Les étrangers y séjournaient selon leur bon plaisir, sans avoir de compte à rendre à personne. Une des conséquences de ce système, c'est qu'il fallait apporter avec soi sa nourriture et ses ustensiles de cuisine, ou les acheter sur place aux marchands établis dans l'enceinte du caravansérail. Il en était de même des lits et du fourrage pour le bétail. Tout ce que le propriétaire fournissait, c'était l'eau, l'abri, la protection, et on les recevait gratuitement. L'hôtellerie de Bethléem, devant laquelle Joseph et Marie s'arrêtèrent, appartenait à ce genre intermédiaire. Elle devait être la seule de l'endroit qui ne possédait qu'un unique cheikh. Joseph, bien qu'il fût né en cette ville, l'avait quitté depuis si longtemps qu'il ne connaissait plus personne à qui demander l'hospitalité. D'ailleurs, le recensement pour lequel il revenait et pouvait durer plusieurs semaines, même des mois, vu la proverbiale lenteur des autorités romaines en province, et il ne pouvait songer à imposer sa présence et celle de sa femme pour un temps si long à des amis ou à des parents. Sa crainte de ne pas trouver de place s'était accrue pendant qu'il gravissait la colline, et son alarme fut grande lorsqu'il découvrit que la foule assaillait la porte de l'hôtellerie et que dans l'enclos destiné aux animaux, l'espace faisait défaut. « Je vais essayer de parler à l'intendant, » dit Joseph. « Je reviendrai le plus promptement possible. » L'intendant était assis sur un bloc de bois de cèdre placé à côté de la porte. Un javelot s'appuyait derrière lui à la muraille. Un chien se tenait couché à ses pieds. « Que la paix de Jéhovah soit avec toi, » lui dit Joseph. « Que ce que tu me souhaites te soit rendu en une grande mesure, » répondit le gardien d'un ton grave et sans faire un mouvement. « Je suis un bethléemite, » dit Joseph. « N'y a-t-il pas de place pour moi ici ?»« Il n'y en a pas. Tu dois avoir entendu parler de moi. Joseph de Nazareth, cette maison est celle de mes pères. Je suis de la race de David. » Tout l'espoir de Joseph reposait sur ses paroles. Si elles restaient sans effet, il lui serait inutile d'essayer d'obtenir même à prix d'argent ce qu'il demandait. C'était une grande chose que d'appartenir à la maison de Juda. Être de la maison de David, cela signifiait bien plus encore, cela constituait le titre d'honneur par excellence aux yeux des Hébreux. Plus de 1000 ans avaient passé depuis le temps où le petit berger prenait la place de Saül et fondait une dynastie. Les guerres, les calamités de tout genre avaient fait tomber ses descendants au niveau des plus humbles d'entre les Juifs. Ils devaient au travail le pain qu'ils mangeaient, mais leur généalogie représentait un privilège pieusement conservé. Ils ne pouvaient devenir des inconnus au sein de leur peuple, où qu'ils allassent, on leur témoignait un respect touchant à l'adoration. S'il en était ainsi à Jérusalem, combien plus un membre de cette famille pouvait-il espérer trouver une place dans l'hôtellerie de Bethléem? Joseph disait littéralement la vérité lorsqu'il prononçait ces simples paroles « Ceci est la maison de mon père », car c'était la maison même où commandait Ruth, femme de Bouze, celle où naquirent Isaïe et ses fils, dont le cadet fut David, celle où Samuel entra, cherchant un roi, et le trouva, celle que David donna à Barzillai, le Galaïte, celle enfin où Jérémie, par la force de la prière, rassembla les restes de son peuple fuyant devant les Babyloniens. L'intendant se leva et dit respectueusement, « Rabbi, je ne saurais t'apprendre quand cette porte s'est ouverte pour la première fois devant un étranger, mais certainement ce fut il y a plus de 1000 ans. Si dès lors jamais un homme de bien n'a été mis dehors lorsqu'il s'est trouvé de la place, combien faut-il qu'il en manque pour que je dise non à un descendant de David ? Quand es-tu arrivé ? Tout à l'heure ? » L'intendant sourit. « Rabbi, la loi ne nous commande-t-elle pas de considérer l'étranger qui demeure sous notre toit comme un frère et de l'aimer comme nous-mêmes ? » Joseph restait silencieux. « Pourrais-je donc renvoyer ceux qui attendent une place depuis l'aube ?»« Qui sont ces gens ?» demanda Joseph. « Pourquoi sont-ils ici ?»« Pour la même raison qui t'amène, sans doute, Rabbi, le dénombrement ordonné par César. » En outre, la caravane allant de Damas en Arabie et dans la Haute-Égypte est arrivée hier. Ces gens et les chameaux que tu vois leur appartiennent. « Je ne crains pas l'air de la nuit pour moi, » dit Joseph en s'animant, « mais bien pour ma femme. Elle ne peut rester dehors. N'y a-t-il plus de place dans la ville ?»« Aucune, » dit l'intendant qui paraissait réfléchir. « Je ne saurais te renvoyer, Rabbi, » dit-il tout à coup. « Il ne sera pas dit que je t'ai laissé sur la route. » « Va-t'en promptement quérir ta femme, car le soleil baisse et la nuit approche. » Joseph obéit. « Voilà celle dont je te parlais, » dit-il quand il fut de retour auprès de l'intendant. Celui-ci regarda Marie dont le voile était levé. « Des yeux bleus et des cheveux d'or, » murmura-t-il, « ainsi devait être le jeune roi lorsqu'il allait chanter devant Saül. » Puis il ajouta en prenant la bride de l'âne des mains de Joseph, « La paix soit avec toi, fille de David. » Ils traversèrent lentement la cour pleine de monde et prirent un sentier qui se dirigeait vers un rocher crayeux situé à l'ouest du caravansérail. « Tu nous mènes à la caverne, » fit observer Joseph. Le guide qui marchait à côté de Marie se tourna vers elle. « La caverne à laquelle nous nous rendons, » dit-il, « a servi jadis de lieu de refuge à ton ancêtre, David. » Il y mit plusieurs fois ses troupeaux à l'abri, et l'on assure que, devenu roi, il lui arriva d'y revenir avec une grande suite d'hommes et d'animaux. Les crèches existent encore, telles qu'elles étaient alors. Mieux vaut coucher sur le sol sur lequel il a dormi que sur celui des grands chemins. Mais Voici la maison qui est construite devant la caverne. Cette maison, étroite et basse, ne dépassait guère le rocher contre lequel elle était appliquée et servait uniquement de porte à la caverne. « Entrez !» dit leur guide en l'ouvrant devant eux. Ils se trouvèrent bientôt dans une grotte naturelle ayant une quarantaine de pieds de long, 12 ou 15 de large et environ 10 de haut. La lumière qui pénétrait au travers de la porte permettait encore de distinguer sur le sol inégal des tas de blé, de foin, de paille, des ustensiles de ménage. Le long des parois se trouvaient disposées des crèches de pierre assez basses pour que des brebis puissent y manger. « Tout ce que vous voyez là, dit le guide, est destiné à des voyageurs comme vous. Prenez ce dont vous aurez besoin. » Se tournant vers Marie, il lui demanda si elle pensait pouvoir se reposer là. Elle répondit, « Ce lieu-ci est un lieu saint. Je vous laisse, la paix soit avec vous. » Quand il les eut quittés, ils s'occupèrent à rendre la caverne habitable. Or, vers minuit, celui qui veillait sur le toit de l'hôtellerie s'écria, « Qu'est-ce donc que cette lumière que je vois dans le ciel ? Éveillez-vous et regardez !» À demi éveillés, ceux qui l'entourèrent s'assirent, puis ils ouvrirent tout grand leurs yeux et demeurèrent comme frappés de stupeur. La nouvelle qu'il se passait quelque chose d'étrange se répandit autour d'eux. Ils voyaient au ciel une lumière qui semblait infiniment plus rapprochée d'eux que celle des étoiles les moins éloignées. Elle éclairait obliquement la terre. Son sommet semblait n'être qu'un point, tandis que sa base s'étendait sur les montagnes, sur une longueur de plusieurs stades. Sur ses côtés, elle allait en se dégradant doucement, se confondant avec l'obscurité de la nuit. Cela dura pendant quelques minutes, et chez ceux qui considéraient ce phénomène extraordinaire, l'étonnement se changeait en crainte. Les plus timides tremblaient, les plus braves parlaient tout souffle. « Vit-on jamais chose semblable ?» demanda quelqu'un. « Je ne saurais dire ce que c'est. Jamais je n'entendis parler de rien de pareil, » répondit une voix. « On dirait que cette lumière repose sur la montagne. Ne serait-ce point une étoile tombée du ciel ? Quand une étoile tombe, elle s'éteint. J'ai trouvé, moi. Les bergers ont vu un lion, et ils ont allumé des feux pour l'empêcher d'approcher du troupeau. » Les hommes, debout à côté de celui qui venait de parler, poussèrent un soupir de soulagement. « C'est cela !» « C'est cela, » dirent-ils. « Les troupeaux paissaient aujourd'hui dans cette direction. » Un des assistants ébranla leur assurance. « Non, non, quand même toutes les forêts de Juda brûleraient. Elles ne projetteraient pas une lueur si intense ni si haute. »« Frère, » s'exclama un juif à l'aspect vénérable, « ce que nous voyons maintenant, c'est l'échelle que notre père Jacob vit en songe. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères. »